enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le sujet, c'est le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. C'est peut-être un peu ambitieux, mais Dieu nous destine à pas moins que le ciel sur la terre. Dieu désire que nous vivions le ciel sur la terre. Est-ce que ça vous paraît intéressant, ça? Alléluia. Merci, Seigneur. Et certainement qu'on a peut-être vécu, des fois dans notre vie, des moments qui nous ont semblé être un petit peu le ciel sur la terre. Mais le Seigneur désire que ça soit vraiment notre vie et quelque chose de quotidien. Et moi, je bénis encore le Seigneur pour ce matin, parce que dans plusieurs chants, on a dit certaines choses. Et je crois qu'on a besoin de réaliser et qu'au travers du message que je vais partager avec vous ce matin, de la parole de Dieu, on va réaliser plus pleinement certaines choses qu'on a chantées. Et sachez bien que ce que vous chantez, vous l'appelez à l'existence. D'accord? Donc si nous donnons la foi à ce que nous chantons, en fait nous donnons une substance qui fait que ce que nous chantons, nous l'appelons à exister, donc à être manifesté. Et ce matin, on a dit vraiment des choses, waouh, du ciel sur la terre. Vous savez, quand on chante revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père, moi je peux pas juste être là et chanter ça comme ça, quoi. Il y a quelque chose de fort là-dedans, il y a quelque chose de puissant, et on a besoin de le réaliser. Et quand on chante ça, on peut pas le chanter comme on chanterait « Allons, enfants de la patrie !» le 14 juillet. Les soldats, peut-être, ils le chantaient avec foi dans ce qu'ils chantaient, mais nous, on chante ça comme ça le 14 juillet ou à la Coupe du Monde. Mais quand vous chantez revêtu de force et entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père, vous êtes en train de libérer une réalité qui fait tomber les murs de l'endroit où on est aujourd'hui. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Et je ne savais pas pourquoi, mais ce matin, j'ai lu un petit peu dans la parole de Dieu que ça n'a rien à voir avec le message que j'ai préparé. Mais dans Ézéchiel, à un moment, Dieu lui dit qu'il rendra son front comme du diamant. Et en fait, c'est pour aller contre certainement tous les raisonnements des gens qui allaient s'opposer à ce que Ézéchiel allait être amené à dire prophétiquement, à aller contre les murailles, contre ce qui était là devant lui. Et en fait, je réalise que le Seigneur veut aussi nous donner à nous qui sommes là un front qui soit dur comme le diamant. Le diamant, c'est costaud, hein. C'est précieux et c'est costaud. Et dur comme du diamant pour aller à l'encontre des raisonnements, aller à l'encontre des murailles et pour faire éclater tout ce qui dans notre vie peut encore s'opposer à ce que nous soyons réellement dans la dimension de gloire dans laquelle Dieu veut que nous vivions. Alors le ciel sur la terre, c'est ça qu'on veut vivre. Et je vais vous donner maintenant quelques versets pour appuyer ça, pour vous montrer que c'est vraiment biblique, hein, parce qu'on aime bien les choses bibliques. Et moi j'aime les choses bibliques, mais j'aime non seulement savoir qu'elles sont dans la Bible et les étudier et dire mais qu'est-ce que c'est comme bon bouquin que ce livre-là, mais j'aime bien étudier les choses qui sont dans la Bible pour commencer à les vivre et jour après jour les vivre encore un petit peu plus. Et c'est vraiment la démarche dans laquelle j'invite chacun à s'inscrire avec moi. Donc entrer dans les choses du ciel sur la terre, ça commence par entrer dans la réalisation qu'il y a des choses célestes et que nous sommes appelés à les vivre. Alors Colossiens 3, si vous voulez regarder avec moi, Colossiens 3, au verset 1 à 2, Colossiens 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité avec Christ ici? Amen. Donc ça vous concerne, et ça me concerne, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, parce que ça suffit pas. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, et quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc il y a des choses en haut. Et en haut, c'est où? C'est le ciel. Et nous sommes appelés à les chercher. Et ensuite, verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut. Donc, non seulement les chercher, mais ensuite s'y attacher. Et j'aimerais même dire s'y cramponner. Et de vivre un petit peu comme un aimant où on cherche, parce qu'un aimant, il y a des ions qui travaillent. Bon, il y a peut-être des spécialistes pour le dire, qui se cherchent un morceau, cherchent l'autre. Et une fois qu'ils se sont trouvés, ils s'attachent et ils sont ensemble. Et ça sert à ce que ça tienne ensemble un aimant. D'accord? Donc, cherchons les choses d'en haut et attachons-nous à ces choses. Ensuite, Romains 8, 5, on va pas tourner, mais ça nous dit que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Donc s'affectionner, c'est qu'on l'aime, et assez naturellement, quand on aime quelque chose, on s'en rapproche, on s'y attache. Et enfin, ça on peut regarder ensemble, Épître aux Éphésiens, chapitre 2. C'est toujours bien de prendre plusieurs versets, vous savez, quand on avance quelque chose, parfois un verset, si on ne tient pas trop compte de ce qui se passe autour, on peut dire, mais oui, ce n'est pas exactement ça. Mais quand il y a plusieurs versets, c'est que Dieu est vraiment en train de nous parler et qu'il y a une réalité à saisir. Donc, Éphésiens 2, à partir du verset 6. Il, donc Jésus, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc là encore, il nous a dit qu'il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Donc encore une fois, quand nous chantons « Assis sur le trône à la droite du Père », on ne chante pas seulement que Jésus est là-bas, mais il nous a fait asseoir ensemble, ensemble, nous ensemble et ensemble avec lui sur le trône à la droite du Père. Ce qui veut dire que non seulement nous le serons un jour quand nous serons morts et ressuscités dans notre corps pour monter au ciel avec Dieu et s'asseoir sur le trône à la droite du Père, mais nous sommes aujourd'hui assis sur le trône à la droite du Père. Amen. Réellement, hein, pas juste en esprit. Oui, d'accord, c'est pas notre corps, mon corps il est là, mais mon esprit, c'est-à-dire moi, parce que mon esprit c'est moi, il est assis. Toutes ces choses devenir réelles dans nos cœurs. Parce qu'on le sait tous, vous connaissez ces versets, on chante quelques chants qui en parlent, mais que ce soit vrai, réalisons-le et commençons à le vivre. Alors il y a des choses célestes et nous sommes assis à la droite du Père dans le ciel. Et dans le Notre Père, Jésus va nous enseigner à prier la chose suivante, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Quelqu'un peut dire ça ? Sur la terre comme au ciel. Ouais, sur la terre comme au ciel. Donc, le ciel sur la terre, c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais ça devrait être l'état normal de l'Église, l'état normal du chrétien. Parce que quand Jésus enseigne à prier quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Il nous fait prier quelque chose qu'il désire voir manifester, mais qui ne se manifeste que seulement si nous, son peuple, nous entrons dans ces choses, pour les amener à la réalisation. Alors, encore quelques versets pour appuyer cette réalité. Éphésiens chapitre 1, au verset 10, il nous est dit que Dieu avait donc un projet pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc Dieu a le projet de les réunir, ces choses, donc d'amener le ciel sur la terre. Ce qui est important de réaliser, c'est qui nous sommes en lui et que notre esprit, il est dans les cieux avec lui. Nous sommes avec lui, ensemble avec lui, on fait un, on fait juste un. Donc peu importe où je me trouve géographiquement ou dans l'espace et dans le temps, je suis en Christ. Et en Christ, je suis assis dans les lieux célestes, donc les choses du ciel et les choses de la terre sont rassemblées. Et nous sommes appelés à amener les choses du ciel à prédominer sur les choses de la terre. C'est ça l'Église, hein. Dans le monde, les choses de la terre prédominent sur les choses du ciel, soit parce qu'on ne les connaît pas, soit parce que c'est juste considéré comme des fables ou que ça ne nous intéresse pas. Mais l'Église est amenée à ramener et basculer les choses du ciel, à venir prédominer sur les choses de la terre. Jésus dira à ses disciples d'aller prêcher l'Évangile et de dire aux gens qu'ils croiseraient « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». C'est ce que nous sommes appelés à faire, ramener le royaume auprès de ce monde. Et le royaume, c'est quoi ? C'est la vie, c'est la paix, c'est la guérison, c'est l'abondance, c'est toute chose qu'il y a en Dieu. Tout ce qui est bon. Et j'ai même envie de dire que c'est tout le contraire de ce qu'on voit dans le monde. Quand vous voyez la misère dans le monde, faites juste le contraire et vous voyez ce que c'est le royaume de Dieu. Et c'est ça que nous sommes appelés à manifester, frères et sœurs. Nous sommes l'Église et Dieu cherche un peuple qui va amener le ciel sur la terre. Et vous pouvez être cela, comme je peux l'être et je veux l'être. Et je déclare que je suis quelqu'un qui amène le ciel sur la terre. Et vous pouvez dire la même chose si vous y croyez. Alléluia. Habacuc 2, 14 dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc il n'y a pas juste une petite gouttelette. Hein. Si vous regardez, le fond de la mer, on ne le voit pas, par définition, parce que les eaux le couvrent, parce que la mer remplit complètement l'espace qui lui est assigné. Et Dieu veut que ça... que la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire au même point que le fond de la mer est rempli d'eau. Et la connaissance de sa gloire, ouais, c'est ce que nous sommes appelés à amener, c'est nous qui allons l'amener. Et Ésaïe 6, verset 3, encore une fois, dira « Toute la terre est remplie de sa gloire ». On peut dire ça ensemble ? Toute la terre est remplie de sa gloire. Ouais. Et c'est vrai. Mais alors c'est quoi cette gloire ? Parce que, bon, hein ? C'est quoi la gloire? C'est ni plus ni moins l'atmosphère du ciel, ni plus ni moins la présence manifestée de Dieu. C'est ça la gloire dont il est question ici. D'accord? C'est pas juste de dire que tout le monde un jour sera là et dira gloire à Dieu. Ça fait partie, mais la gloire qui doit être manifestée, c'est pas seulement qu'on connaîtra Jésus, c'est pas seulement qu'il y aura de la louange pour dire gloire à Jésus, mais c'est que la présence agissante de Dieu remplira toute la terre comme l'eau couvre le fond de la mer. C'est que la présence agissante de Dieu va venir et remplir toute la terre. Et ça, c'est une réalité. Pour Dieu, c'est accompli. La terre est remplie de sa gloire. C'est ce que les anges qui sont en train d'adorer Dieu proclament. C'est ce qu'Ézéchiel nous dit. Il a eu cette vision des anges qui étaient là et qui disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. » S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Parce que devant le trône de Dieu, on ne dit pas n'importe quoi, on dit la vérité. C'est un trône de justice. Et la justice s'appuie sur la vérité. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Et la gloire dans l'Ancien Testament ou dans la parole de Dieu, on pourrait l'étudier, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la parole de Dieu. Régulièrement. Et notamment quand le tabernacle a dû être construit dans le désert, Dieu a fait venir sa gloire à un moment donné. Il y avait quelque chose de sensible, de tangible. D'accord ? Si les gens ont pu dire que la gloire de Dieu avait rempli le tabernacle, c'est parce qu'il y avait quelque chose. On le sentait, c'était pas juste quelque chose de religieux, dire « Ok, maintenant il y a la gloire de Dieu ». Non, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est venu envahir cet endroit, qui était désigné par Dieu et qui a fait que cette gloire, elle était là et elle était reconnue par les gens qui étaient là. Elle était reconnue par le peuple de Dieu. Et c'était quelque chose de sérieux, si bien que seulement quelques fois par an, il y avait seulement quelques personnes, le souverain sacrificateur, qui avait le droit d'entrer jusqu'au plus près de ce qui représentait la présence de Dieu. Et ça représentait la présence de Dieu au milieu d'eux. Et ça se manifestait, c'était quelque chose de vivant. C'était pas juste une théorie. Et plus tard, dans le temple aussi, Dieu va remplir de sa gloire pour dire, voilà, c'est ma maison. Il amène sa gloire, et si bien qu'il nous est dit que les serviteurs ne pouvaient même plus faire le service. Ils étaient obligés de sortir parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette présence de la gloire de Dieu. C'était quelque chose qui était là dans l'air. C'est comme si on fait tomber quelque chose sur vous, quoi. C'était sérieux. Mais la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est qu'on peut se tenir dans cette gloire à cause de Jésus, parce que lui il est allé à la croix, il est plus là, il est allé à la croix, là voilà, et il a payé le prix et il a ouvert cette route nouvelle et vivante pour que nous puissions demeurer dans la glorieuse présence de Dieu, dans le cœur même de sa présence, dans sa présence agissante, dans l'atmosphère céleste, dans sa gloire, et nous sommes son temple. La parole de Dieu déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ou encore ailleurs, que vous êtes une habitation de Dieu. Et nous sommes l'habitation de Dieu, et dans son habitation, Dieu met sa gloire. Mais maintenant, la gloire n'est pas seulement appelée à rester dans l'habitation, bien gentiment, mais elle est appelée ensuite à aller vers au dehors et à manifester le royaume glorieux de Dieu sur cette terre. Et ça, c'est ce à quoi je vous sensibilisais ce matin, et certainement qu'on connaît ce message, mais vivons-le, frères et sœurs. Il est temps que des hommes et des femmes se lèvent et disent « Ok Seigneur, je veux demeurer dans ta gloire et je veux être un porteur de ta gloire dans ce monde. Je veux être quelqu'un qui amène le ciel sur la terre. » Et moi, c'est ce que je veux faire. Et je ne veux plus me contenter de faire autrement que de voir le ciel manifesté sur la terre quand je suis quelque part. Parce que c'est ce à quoi Dieu m'a désigné. Alors, c'est quelque chose dans quoi on grandit, dans quoi on avance. Mais allons-y, n'attendons pas, frères et sœurs. Amen. Alors, nous pouvons vivre ça ici et maintenant. Ici et maintenant. On peut dire ça ? Ici et maintenant.
Ici et maintenant.
Yes. Il faut le croire. Il faut le croire. Et l'une des clés, je vais vous donner une clé qui nous aide et qui est capitale, c'est l'adoration. Et Seigneur, merci pour le dernier chant qu'on a chanté, parce que c'est exactement le flot de l'esprit qui est en train d'être manifeste dans cet endroit ce matin, parce que les gens qui préparent la louange et moi, on ne se concerte pas, et les gens qui préparent la louange vont prendre du ciel quelque chose, parce que Dieu leur donne une direction pour nous, pour amener le peuple à adorer Dieu dans une certaine direction. Moi, sans aucune prétention, mais c'est comme ça que ça marche, je vais prendre des choses dans le ciel pour vous les partager ce matin, et quand on se retrouve ensemble, on se rend compte qu'il y a la même chose. On va dans le même sens. On avance ensemble, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste. Et c'est le ciel qui vient impacter notre monde terrestre. Donc l'adoration, ça c'est vraiment une clé. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bien souvent les moments les plus qualitatifs qu'on peut passer dans la présence de Dieu, c'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Alors je ne vais pas faire un enseignement complet sur l'adoration, parce que c'est pas l'objet, et on n'a pas envie d'être trop technique non plus. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui n'est pas juste que de chanter des chants. D'accord ? Souvent, on fait cette différence. La louange, c'est plus de la proclamation. C'est parfois plus vivant, parfois même un peu guerrier. On loue Dieu, on dit ce qu'il a fait, etc. Et puis l'adoration, c'est un peu plus de contempler Dieu, de pour qui il est. Et c'est souvent des chants plus calmes. Mais au-delà de ces choses qui sont purement naturelles, à mon sens, l'adoration, c'est quand à un moment donné, vous dépassez le simple fait de chanter un chant, le simple fait de chanter un cantique, et que vous commencez à laisser monter en vous quelque chose qui va faire que vous commencez à entrer dans ce domaine de la gloire de Dieu. Parce que vous laissez votre cœur s'exprimer, vous vous occupez plus de ce qui se passe autour de vous, parfois vous vous occupez même plus des paroles du chant, mais vous êtes tellement concentré sur le Seigneur et vous vous laissez emporter. Et tout d'un coup, quand vous êtes là, vous chantez le cantique, à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi ni comment, mais il y a comme quelque chose qui est en train de monter en vous. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Si vous ne l'avez pas vécu, eh ben, persévérez dans l'adoration jusqu'à ce que ça vienne. Parce qu'on a besoin de ça. Vous savez, si on fait un temps d'adoration, mais qu'on n'arrive pas à un moment où il y a quelque chose qui se détache un petit peu de nous-mêmes et qui nous amène autre part, on n'a pas fait d'adoration. Excusez-moi. On a chanté, mais on n'a pas adoré Dieu. Et ça n'a rien à voir avec... On peut vivre ça avec un grand orchestre et des gars qui sont super forts dans le domaine de l'adoration, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une onction particulière pour ça et qui vous font décoller. Et on peut le vivre, mais de la même façon, on peut le vivre juste avec une guitare, juste avec peut-être même quelqu'un, c'est pas le cas ici, mais même qui chante faux, qui connaît pas son chant, qui rate des accords. Et moi, ça m'arrive, franchement, des fois, quand j'adore Dieu, je suis sûr que c'est pas joli à entendre. C'est pas toujours joli à entendre, mais ça vient de là. Et je suis en train de vivre quelque chose avec Dieu. Et même si je suis en train de faire un petit peu grincer ma guitare, et même si peut-être les oreilles de Sophie sifflent un peu quand elles m'entendent dans ma pièce en train d'adorer Dieu, peu importe, je suis en train de vivre quelque chose avec le Seigneur. Et c'est ça que nous avons besoin d'expérimenter. Parce que quand vous dépassez ce que vous faites naturellement en chantant, eh bien vous allez commencer à vous laisser emporter par Dieu dans ce domaine qui est son domaine, le domaine de sa présence, le domaine de la gloire, de la présence agissante de Dieu, de la présence manifeste de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. Et bien souvent, on le sent quand on commence à chanter en langue. Et parfois, on commence à chanter en langue aussi dans la foi, parce qu'on veut percer, on veut y aller. Et même à un moment donné, dans le chant en langue, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de nous emporter, et on va plus loin. Et quand ça commence, ne nous contentons pas de le faire juste pendant 2-3 minutes ou 2-3 secondes, mais laissons-nous emporter par le flot du Saint-Esprit. Amen. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant désormais faire des chants en langue de longues minutes ou de longues heures. C'est pas ça, d'accord? Nous, on réduit tout à une technique. Mais je fais simplement des constats de notre expérience. Et Dieu nous a donné ça pour ça. Le chant en langue, l'action du Saint-Esprit en nous, c'est là pour nous conduire vers le Père. Et ça nous fait entrer dans ce domaine de la gloire. Et nous avons besoin de le vivre. Mais ça, pas seulement dans l'Église, mais de le vivre aussi chaque jour chez vous. Est-ce que vous adorez Dieu chez vous? Je veux pas la réponse. Mais adorez-le à la maison. Adorez-le à la maison. Lisez la parole, méditez la parole, priez, mais adorez Dieu. N'oubliez pas ça. Souvent on prie, souvent on lit la Bible, mais pas toujours on adore Dieu à la maison. Et pourtant c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, parce que c'est ça qui nous connecte au domaine de la gloire de Dieu. Et ce qui fait que chaque jour vous pouvez avoir un attouchement particulier du Seigneur. Un frère en Afrique disait recevoir la touche de Dieu, je ne sais pas si le terme est... Et bon, mais c'est ça, c'est comme si le Seigneur vient et puis boum, il appuie sur un bouton, il fait quelque chose, vous sentez quelque chose, il y a quelque chose de vrai qui se passe. C'est pas juste de dire je suis content, j'ai bien prié. Ça peut se faire par la prière, l'adoration peut naître de la prière aussi, c'est vrai. Parfois, on prie vraiment et tout ça. Et puis, à un moment, vous priez en langue et vous commencez à être emporté dans votre prière en langue. Et à un moment donné, dans cette dimension-là, vous commencez à déclarer des choses. Vous commencez à prophétiser sur votre vie. Vous commencez peut-être même parfois à prophétiser sur l'Église et parfois même à prophétiser sur la nation. Ça, c'est normal pour Dieu. Parce que vous allez dans le domaine céleste, vous entendez, vous voyez ce qui se passe et simplement vous le déclarez et vous le libérez sur la terre. Et ça, c'est quelque chose dans quoi on a besoin d'entrer. Et de le vivre vraiment régulièrement, c'est ça, amener le ciel sur la terre. C'est pas juste une fois ou deux fois par semaine d'être ensemble, de faire un bon petit moment d'adoration, de sentir la gloire de Dieu qui vient, de voir des gens guéris, de voir des gens libérés. Oui, c'est une dimension et Seigneur, fais-le, nous avons tellement soif et besoin de vivre ça. Oui, mais aussi vous, chaque jour à la maison, adorez Dieu pour amener le ciel sur la terre là où vous êtes. Pour amener le ciel sur la terre dans votre travail. Je suis en train de regardez un petit peu les mots grecs qui parlent de puissance ou d'énergie aussi, parce que j'avais regardé le mot dynamos, dont vient dynamite aussi, qui est quelque chose de la puissance de Dieu, mais je ne vais pas développer ça. Hein. Mais dans les différents mots grecs pour la puissance, il y a aussi le mot kratos, qu'on trouve dans démocratie, mais qui donne une autorité ou un pouvoir dans un domaine donné. Et Dieu nous donne cette puissance kratos dans notre vie pour que là où tu aies une autorité dans ton domaine. Pour que dans ton travail, tu es là et tu as une autorité qui te vient de Dieu dans ton domaine. Parce que tu fais ton travail comme personne d'autre ne le fait. Parce que tu es un porteur du royaume de Dieu. Là où tu te trouves, c'est une des dimensions de la puissance de Dieu dans notre vie. Et il y en a d'autres, mais vivons là. Parce que c'est pas quand on est au travail qu'on a besoin d'être tout d'un coup, vous êtes en train de travailler sur votre machine et vous êtes là, ah, alléluia, merci Seigneur, et la pièce elle est en train de partir et, d'accord? Il y a différentes dimensions dans lesquelles Dieu travaille, donc, et dans la gloire de Dieu, il y a tout pour toute notre vie. C'est tout le royaume de Dieu qui doit être manifesté. Et il se manifeste au travers de vous et moi. Le ciel sur la terre, c'est tous les jours, à chaque moment. Et dans l'église, le ciel sur la terre, ça peut être ça. Vous commencez à rire, vous commencez à pleurer ou à vous rouler par terre. J'espère qu'on ne va pas me foutre dehors. Mais quand vous êtes au travail, vous avez aussi besoin d'être connecté à la gloire de Dieu pour que sa puissance soit manifeste et que vous ameniez le ciel sur la terre dans ce que vous faites. Mais pas de cette façon, d'une autre manière. Et il y a une dimension d'autorité qui est là pour ça. Et dans chaque situation, il y a différentes dimensions dans lesquelles Dieu nous introduit. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. Mais en tout cas, nous avons besoin de ça tous les jours. Prenez conscience, j'ai besoin d'être connecté à la présence agissante de Dieu. J'ai besoin que la gloire de Dieu agisse dans ma vie. Oui, dans l'Église, mais oui, dans ma vie. Et plus qu'on va commencer à méditer ces choses, plus qu'on va fixer nos pensées sur ces choses, et plus ça va devenir un réel désir dans nos vies et une réalité aussi. Parce que ce qui occupe nos pensées, c'est bien souvent ce qu'on va vivre. Si vous êtes constamment en train de penser au problème de votre travail, c'est à ça que vous vous donnez et c'est à ça que vous êtes presque tout entier consacré. Mais si vous pensez aux choses d'en haut, c'est ça que vous avez envie de vivre, c'est à ça que vous aspirez, c'est à ça que vous vous concentrez et c'est ça qui va influencer votre vie. Et moi, j'ai plus envie d'être influencé par les réalités de cette terre, j'ai envie d'être influencé par les réalités célestes parce qu'elles sont bien meilleures et parce que Dieu appelle des hommes et des femmes à amener le ciel sur la terre. À ce que l'atmosphère du ciel soit présente dans nos réunions et aussi à travers notre vie partout où nous allons. Donc l'adoration, c'est un de ces moyens que Dieu utilise, c'est vrai, pour accomplir une œuvre au travers de nous. Souvent, quand on chante en langue, parfois on en a une interprétation, où on sait qu'on a mené un certain combat, où on sait qu'on a libéré quelque chose. C'est une des dimensions, mais l'adoration, c'est aussi, et j'allais dire surtout, un chemin par lequel nous arrivons dans la présence agissante de Dieu. Parce que nous commençons à lâcher le contrôle que nous avons de ce que nous faisons sur la terre. Nous lâchons les rênes et on se laisse emporter par le Seigneur dans quelque chose que lui maîtrise et dans laquelle c'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui nous donne les instructions. C'est lui qui va commencer à nous conduire là où lui, il veut aller. Et là où lui, il nous amène, c'est le meilleur endroit où on puisse être parce que c'est là où quelque chose va se passer. Mais si on ne va pas jusqu'à dans cet endroit, ce lieu, qui n'est pas un lieu physique, qui est un lieu spirituel, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va se produire dans notre vie, ni dans nos réunions, parce qu'on reste terrestre. On a besoin de devenir des gens célestes. Et je sais qu'il y a une secte qui existe, qui s'appelle le christianisme céleste. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est leur enseignement, mais j'ai rien à voir avec eux, d'accord? Hein? Ça, c'est si jamais quelqu'un écoute ou quoi. D'accord? Ça n'a rien à voir. Mais je suis citoyen du ciel, donc je veux l'atmosphère de mon royaume, là où je suis. Ok? On est ambassadeur. On sait ça, d'accord ? On sait ce que c'est qu'un ambassadeur. Mais l'ambassadeur, quand vous êtes chez lui, vous avez l'impression d'être dans son royaume, mais il y a quelque chose qui se dégage de lui. Et de la même façon, plus que vous adorez Dieu, plus que vous demeurez dans sa présence, il y a quelque chose qui va commencer à se dégager de vous. Parce que Dieu a un rayonnement. D'accord ? Il y a un rayonnement de la gloire de Dieu. On sent que c'est lui. On sent que c'est sa puissance. On sait qu'il y a la sainteté de Dieu. Et de la même façon, ce rayonnement va commencer à devenir notre rayonnement. Si bien que quand nous entrons dans la présence de quelqu'un, il y a quelque chose qui va rayonner, qui va commencer à le toucher. Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous avez ? Et même s'il ne le dit pas, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et si bien que parfois, sans rien faire, ou même sans rien dire, vous passez quelque part, et il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a peut-être un démon qui est en train de se manifester. Vous allez le chasser, il va partir. Alors que vous ne saviez même pas que vous étiez venu pour chasser un démon, mais il y a le rayonnement de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'exemples comme ça, et par exemple de Pierre, où il nous est dit que les gens posaient les malades dans l'ombre de Pierre. Est-ce que vous croyez que c'est son ombre physique juste par rapport au soleil qui faisait quelque chose ? Moi, je crois pas. Hein. L'ombre de quelqu'un, bon, ça fait rien. Mais cette ombre, en fait, qui est dit, c'est plus une question de rayonnement. Il y a quelque chose qui rayonnait de lui. Et ça, c'était la présence agissante de Dieu. Ça, c'était la gloire de Dieu qui le couvrait. C'est quelqu'un qui demeurait dans la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui faisait la volonté de Dieu. Et bien, tout naturellement, il y a un rayonnement qui était là. Et les gens disaient que même s'il y a juste, ils sont à proximité, il y a quelque chose qui va se produire. Et j'ai vécu ça un jour dans une rencontre et c'était assez impressionnant et j'aimerais que ça devienne normal dans ma vie. Ou juste en passant à côté de quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi tout d'un coup il commence à rigoler, à être touché par le Saint-Esprit. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne lui avez rien fait, vous n'avez même pas pensé à lui, vous n'avez même pas prié pour lui. Oui, mais parce que là où vous passez, Dieu va pouvoir vous utiliser. Et il y a un rayonnement. Moïse aussi, il y avait un rayonnement sur sa tête quand il est descendu de la montagne. Il y avait quelque chose si bien qu'on l'a couvert. Il venait d'où ? Il était dans la présence de Dieu. Et ça a produit un rayonnement sur lui. Jésus lui-même, à la transfiguration, il y avait un rayonnement sur lui qui était tellement glorieux. Les gens l'ont vu, ça. On disait que son visage était plus blanc que blanc. Il y a des lessives qui ont cette prétention, mais il y a encore plus blanc que blanc. Et c'est ça où nous sommes appelés aussi à le vivre. Moi, je crois vraiment que Dieu va mettre un rayonnement sur ses enfants. Plus nous demeurons dans sa présence, plus nous allons rayonner quelque chose. Et physiquement aussi. Et là, je sais que je suis en train d'aller peu loin et c'est un petit peu fou. Mais c'est bon. C'est bon parce que c'est la volonté de Dieu, c'est sa parole. Qu'il y a un rayonnement qui se passe par son Église. L'Église est appelée à être influente. Ben, l'influence, elle vient avec un rayonnement. On dit de quelqu'un qu'il est influent parce que quand on le voit, même dans le monde, hein, quand on est dans sa présence, il y a quelque chose qui rayonne de lui. On a envie de le suivre. On a envie de suivre un leader parce qu'il y a quelque chose qui rayonne de lui, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. Et de la même façon, nous sommes appelés à avoir ce rayonnement de la gloire de Dieu qui fait que les gens vont vouloir nous suivre. Et en fait, pas nous suivre, mais suivre celui qui est en nous. Et ça, c'est le Seigneur. Et ils vont être touchés par sa puissance. Touchés par sa puissance. Dans Josué 2, verset 11, il nous est parlé d'ennemis qui sont effrayés à l'aspect du visage de ceux qui adoraient Dieu. Ils ont eu peur seulement à l'aspect du visage des gens. On pourrait lire ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient leur visage ? Mais il y avait un reflet de la gloire de Dieu sur eux qui fait que l'ennemi a eu peur juste en les voyant. Juste en les voyant. Il y a un rayonnement qui est sur nous, il y a quelque chose qui se produit dans l'esprit. Si bien que quand tu rentres dans un bureau, il y a quelque chose de la faveur de Dieu qui va toucher la personne en face de toi et tu ne sais pas pourquoi tu obtiens ce pourquoi tu es venu et parfois même tu obtiens mieux. Ça, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu dans ta vie. Romains 8, verset 30, il est dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc glorifier quelqu'un, c'est lui donner la gloire, d'accord ? Et en fait, Dieu nous a glorifiés au sens où Dieu a mis sa gloire en nous et sur nous. Donc sa gloire est là. Maintenant, on a besoin de la rendre réelle. La parole dit par ailleurs, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Or, Dieu est revêtu de gloire. Je reviens encore au chant, vous l'avez chanté, donc normalement vous êtes d'accord avec ce que vous dites, sinon c'est que vous avez un problème. Et quand vous dites revêtu de force, entouré de gloire, eh bien, vous vous reconnaissez comme étant comme ça. Parce qu'il est comme ça, donc vous êtes comme ça. Et Jésus avait ce rayonnement. Les apôtres aussi avaient ce rayonnement. Moïse avait ce rayonnement. Mais c'est quoi ce rayonnement ? C'est la présence de Dieu. C'est la puissance agissante de Dieu. Et nous sommes appelés à ce que ce reflet devienne une réalité. Mais pour ça, nous avons besoin de demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence avec une clé très simple, c'est l'adoration. Entrer dans sa présence et y demeurer. Y rester. Pas juste entrer, toucher, goûter un petit peu, mais y rester, adorer. Rester là. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais à force que vous adorez, vous arrivez à un point où vous n'avez même plus rien à dire, quoi. C'est tellement truc. Vous sentez que c'est le moment peut-être de se taire et d'entendre Dieu vous parler. Parce que l'adoration va vous amener à recevoir les directives de Dieu. L'adoration va vous amener à entendre, à voir, à sentir et à goûter ce qui se passe dans les lieux célestes. L'adoration vous amène à laisser vos réalités pour entrer dans une autre réalité, celle des lieux célestes, celle de la gloire de Dieu. Et plus que vous demeurez là, et plus que vous allez commencer à entendre de Dieu, plus que vous allez commencer à recevoir des stratégies, plus que vous allez commencer à pouvoir être utilisé par le Seigneur parce que vous amenez réellement du ciel sur la terre. Et ça, c'est le partage de chaque enfant de Dieu. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Entendre de Dieu chaque jour, mais ça se fait, oui, en lisant la Bible, mais ça se fait en passant du temps dans sa présence. Oui, là, il y a des paroles qui vont fuser. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont on a besoin. Le Seigneur veut vraiment nous amener à entrer dans une dimension où on n'est pas juste limité par la foi. La foi est une chose, la foi est une dimension. On peut prier pour quelqu'un par la foi. On peut avoir des démarches par la foi. Et c'est tout à fait valable et nous devons continuer à marcher dedans. Mais la foi prend du poids et prend de la puissance quand nous la vivons en association avec ce qui se passe dans les lieux célestes. Notre foi prend du poids et de l'efficacité quand elle s'appuie sur des choses que nous vivons dans les lieux célestes et que nous amenons du ciel sur la terre. Ce que nous faisons par la foi, c'est bon et il faut le faire. Mais ce que vous faites en amenant les choses du ciel sur la terre, ça va être encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. Et nous avons besoin de grandir dans cette dimension-là. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'annule pas la foi. On marche toujours par la foi. On développe toujours notre foi dans la parole de Dieu. On déclare toujours les choses par la foi. Mais au lieu de seulement déclarer quelque chose que nous savons être vrai et que nous entendons peut-être de la parole, ou autre, nous commençons à déclarer ce que nous entendons, qui est en train d'être déclaré là-haut dans le ciel. La foi reste la base. On a partagé plusieurs messages récemment sur expérimenter la présence de Dieu. Le premier, c'était le fondement qui était la foi que je vous avais partagé. Le deuxième, je vous avais parlé de la communion avec Dieu. Ensuite, on avait parlé de déclencher la manifestation. Donc, recevoir la révélation pour appeler à l'existence les choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous introduire vraiment dans... c'est un peu plus la pratique de la présence de Dieu, en fait. Une fois qu'on entre dans la présence de Dieu, eh bien, là, on va commencer à voir la manifestation de sa présence. Vous savez, il y a un jour, j'étais là et on était vraiment dans la présence de Dieu et on était dans un temps d'adoration. Et c'était le moment pour moi d'exercer le ministère et j'avais un message et tout ça, mais ce qui était dans mon cœur, c'était qu'on continue d'adorer Dieu un moment. Et plus qu'on adorait Dieu, et plus que ça devenait réel et sensible dans l'air dans lequel on évoluait, la présence de Dieu était là, c'était électrique, on peut dire. Et à un moment donné, il y a même des gens dans l'assemblée qui étaient saisis par Dieu sans que personne leur dise rien ni ne les touche. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu agit aussi souverainement dans sa présence. Autant Dieu agit au travers ses serviteurs, au travers l'imposition des mains et tout ça, et c'est excellent, ça reste vrai et ça restera toujours vrai, parce que c'est les moyens que Dieu établit. Mais autant des fois vous êtes dans la présence de Dieu et si vous accueillez ce mouvement de la présence agissante de Dieu, il y a des choses qui vont se produire toutes seules. Parce que quand on dit présence agissante, c'est parce qu'elle agit. Et la présence de Dieu agit sur les gens alors même que vous n'avez rien fait. Et moi j'aimerais vraiment que de plus en plus on vive ces choses et ces dimensions, qu'on donne à Dieu l'occasion de manifester sa présence, de se manifester, et j'ai envie de dire de se manifester lui-même. Je crois que plus que de faire des miracles, même si on est d'accord que c'est Dieu qui les fait, nous sommes appelés à amener la présence agissante de Dieu. Et ensuite, de cette présence agissante de Dieu, les miracles vont sortir, les provisions vont sortir, les paroles de connaissance vont sortir, les besoins vont être répondus dans la présence de Dieu. Or, quand nous ne sommes pas dans sa présence, nous faisons ces choses, comme je disais tout à l'heure, dans la foi. Vous pouvez être dans la foi sans être dans l'onction. Et Dieu honore, il y a des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, mais Dieu fait des miracles. Parce qu'ils sont dans la foi. Mais il vaut mieux être dans la foi toujours et recevoir l'onction là par-dessus. Et amener la présence agissante de Dieu, et là les résultats sont multipliés. Et là Dieu fait son œuvre. Et là c'est le ciel sur la terre. Là, ce n'est pas juste ponctuel. Là, la présence agissante de Dieu, elle est comme un flot. Elle est là. Et Dieu veut nous emmener dans cette dimension plus élevée. Où qu'on en soit aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup plus. Ce n'est pas nécessaire de trop creuser avec notre tête. Moi, j'aimerais qu'on commence à creuser avec notre cœur. À aller explorer ces profondeurs de la gloire de Dieu. Avec nos cœurs, avec notre esprit. Éveillons notre esprit. Vous savez, notre esprit a été renouvelé à la nouvelle naissance. Il est vivant. Mais c'est quelque chose aussi qu'on a besoin d'entraîner. Et entraînons notre esprit à évoluer dans ces dimensions de la présence agissante de Dieu. Exerçons-le non seulement à mastiquer la parole, exerçons-le non seulement à marcher dans la foi, mais exerçons-le aussi en complément de tout ça à évoluer dans la présence de Dieu. Et tout ça va commencer à travailler ensemble. Et là, on va vivre les dimensions dans lesquelles Dieu veut amener son Église. Et ça, c'est la dimension du ciel sur la terre. Et Dieu veut qu'il y ait vraiment une inondation du domaine céleste dans le domaine terrestre. Ça va pas juste toucher un peu. On l'a déjà vu tout à l'heure avec ce verset, comme l'eau couvre le fond de la mer. Et il y a un passage de la parole, il est dans Ézéchiel 47. Et je vous invite à le regarder ensemble et à le recevoir d'une façon toute nouvelle. Faisons comme si nous ne l'avions jamais entendu. Et entendons à travers l'appel de Dieu qui résonne ce matin pour chacun d'entre nous. Cet appel de Dieu à pas seulement rester dans une dimension ou contenue, mais à entrer dans une dimension beaucoup plus élevée qui est le domaine de sa gloire. Vous savez, Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il y a la totalité de sa provision et de sa bénédiction. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a tout. C'est l'apôtre Paul qui dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Où ça ? Dans les lieux célestes. Donc quand nous allons dans les lieux célestes, ça y est, on est béni de toute bénédiction. Par contre, si on reste à un niveau terrestre, on est béni de toute bénédiction, mais ce n'est pas réel. Donc, allons dans les lieux célestes. Expérimentons-le. Et quand vous êtes dans cette présence glorieuse, la présence agissante de Dieu dans les lieux célestes, vous êtes béni de toute bénédiction. Il a été pourvu à tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Vous êtes guéri de toute maladie. Vous êtes libéré de tout ce qui vous tient captif. Et ça, c'est ce que Dieu veut accomplir. C'est ce à quoi il appelle son Église, à sortir des limites. Je ne vais pas dire médiocrité, c'est peut-être un peu méchant, mais pourtant c'est beaucoup ça, donc je le dis quand même. Et chacun sait où il en est avec le Seigneur, mais on a besoin de sortir de là où on est pour entrer dans cette plénitude de sa présence, pour aller réellement puiser dans les lieux célestes et amener le ciel sur la terre. Alors lisons ça ensemble, Ézéchiel 47, à partir du premier verset. Donc c'est Ézéchiel qui nous parle d'une expérience prophétique, et il y a une interprétation direct, mais il y a aussi une interprétation pour chacun d'entre nous aujourd'hui que le Seigneur veut nous donner. Donc à partir du premier verset, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Donc la maison, là, c'est la maison de Dieu, hein. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Et j'arrête ici la lecture. Donc on voit ici une évolution dans laquelle le prophète est amené à avancer de plusieurs étapes. Donc d'abord, on lui propose d'avancer, et j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Ensuite, il avance jusqu'aux genoux, il avance jusqu'aux reins, et enfin, c'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la mer ou quoi. Il y a pas mal de gens qui avancent assez doucement, moi y compris, parce que j'ai un peu frileux des fois. Et donc on avance, on est mouillé jusqu'aux chevilles, Souvent, ça nous fait déjà du bien parce qu'il fait chaud, l'eau est un peu fraîche, ça nous fait du bien et ça nous rafraîchit. On est content, mais on n'a pas envie juste de rester là. On avance encore un peu plus, on a de l'eau jusqu'au genou. Là, c'est encore mieux, quoi. C'est encore plus frais, on est content. On continue d'avancer et quand on arrive souvent au niveau de la taille, bon, ça commence à se compliquer un petit peu. Hein. Et là, on commence à sentir que c'est un petit peu frais et il faut qu'on se décide. Et ce matin, j'ai cette image vraiment à mon esprit que pour beaucoup entre nous, pour plusieurs en tout cas entre nous, on est un peu là, quoi. On a de l'eau jusqu'à la taille, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à un certain point avec Dieu et l'action dans sa présence et avec son esprit. Et on est jusqu'à la taille, mais là, c'est un petit peu inconfortable parce que c'est un petit peu frais et c'est là que c'est le moment de prendre une décision. Et quand vous allez vous baigner, c'est soit maintenant je me jette ou soit vous laissez tomber, vous repartez, vous dorez au soleil, quoi. Et il y a un moment où on a besoin de prendre une décision et de se jeter à l'eau. Et ce matin, c'est l'invitation que je vous partage et je suis sûr que ça fait écho dans le cœur de certaines personnes à se jeter à l'eau. Jetons-nous à l'eau ensemble. Jetons-nous à l'eau. Jetons-nous à l'eau. Vous savez, si le Seigneur rend notre front comme du diamant, c'est juste pour casser ce qui nous empêche de nous jeter complètement à l'eau. Alors, je sais pas si vous vous êtes mis une bouée pour X raison et donc elle vous empêche d'aller vous plonger complètement, et ben, on prend une aiguille et on la casse, quoi. Et puis on y va, on se jette à l'eau. On lâche le contrôle. Vous savez, ça suppose d'un petit peu lâcher aussi, hein, d'une certaine façon, le confort, le contrôle. Ça suppose de laisser ce que nous, on maîtrise encore un petit peu, parce que tant que vous êtes comme ça, même s'il y a du courant, bon, on tient encore debout, quoi. Hein. Un peu moitié-moitié. Mais une fois que vous vous lâchez, bah là, vous vous mouillez, et c'est excellent. Et c'est là qu'on est content de s'être baigné. Et c'est là qu'on se réjouit, c'est là que ça nous fait du bien. Hein. Vous savez, moi, si je vais à la plage, bon, en France, j'y vais peu parce que c'est trop froid. Mais par exemple en Guadeloupe, il n'y a pas longtemps, mais il faut vous dire que là où on est content de s'être baigné, c'est quand on s'est jeté et puis qu'on dit « Ah, elle est bonne !» Et on a vraiment besoin de, à un moment donné, prendre cette décision et dire « Ouais, je me jette à l'eau, Seigneur. » Pas dans l'inconnu, mais je me jette ou je lâche là où j'en suis jusqu'à présent, qui était vraiment bon. J'ai déjà fait un bon bout de chemin avec le Seigneur. Mais là, je veux dire, Seigneur, je te fais complètement confiance. Et je me jette à l'eau. Je me laisse emporter par ton courant. Je me laisse emporter par ton courant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Et ne réduisons pas les choses non plus. Ce n'est pas des étapes obligées. On n'est pas obligé de se mouiller un peu les doigts de pied, puis les genoux, puis on peut courir directement et se laisser emporter par le flot de Dieu. On peut. Il y a des gens qui font ça aussi à la plage. Hein. Moi, j'y arrive pas, mais il y a des gens, ils viennent, ils courent et hop, ça y est, ils y sont. Donc, ne disons pas non plus, oui, d'abord on se mouille un peu, après un peu plus. Dieu n'est pas limité, Dieu veut nous faire entrer tout de suite dans la plénitude. Mais ça dépend juste de nous. Et laissons-nous vraiment emporter par le Seigneur dans cette dimension. Son appel, c'est ça, c'est « veux-tu aller plus loin ?» Et plusieurs fois, cet appel a résonné dans ma vie de la part du Seigneur. C'est « veux-tu aller plus loin ?» C'est comme si le Seigneur se tenait devant nous encore ce matin, qui nous tend la main, et nous dit « veux-tu aller plus loin ?» Viens. Vous savez, le Seigneur est là pour nous accueillir, il est prêt. Il est prêt, il veut nous faire vivre la puissance de sa gloire. Il veut nous faire vivre la plénitude des réalités célestes. Réellement, concrètement, à un moment donné, même nos sens sont impliqués. On peut entendre, on peut voir, on peut sentir, on peut goûter. Je me souviens un jour, dans une réunion, on était dans l'adoration, et puis après, il y avait un temps de silence comme ça, et d'un coup, j'entendais des sons, j'entendais de la musique, c'était vraiment merveilleux. Il n'y a personne qui jouait. Mais dans la présence de Dieu, il y a de l'adoration en permanence. Vous savez, c'est pas des hallucinations. Hein. Je suis peut-être un petit peu zinzin aux yeux de pas mal de monde déjà. Bah, peut-être que ça va être le cas aussi à vos yeux maintenant. Mais moi, je sais que c'est quelque chose d'authentique que j'ai vécu. Et quand vous êtes dans la présence agissante de Dieu, vous savez que c'est quelque chose d'authentique. Et nous avons besoin de nous laisser juste emporter vraiment jusqu'à dans le flot de Dieu. Où on laisse de côté tout ce qui nous tient encore, tout ce qui fait qu'on reste debout pour juste se laisser emporter et aller de l'avant. Moi, je ne sais pas où nous en sommes, mais veux-tu aller plus loin? Peut-être que tu as déjà vécu des moments particuliers dans la présence de Dieu. Là, ce matin, veux-tu aller plus loin? Peut-être que tu es né de nouveau, c'est déjà très bien, mais veux-tu aller plus loin? Peut-être que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu parles en langue, c'est très bien, mais veux-tu aller plus loin? Peut-être que de temps en temps, tu goûtes à l'onction, ou tu sens la présence de Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose qui est là, mais veux-tu aller plus loin? Et peut-être même certains sont-ils assez avancés, vivent-ils des temps intenses avec Dieu chaque jour? Mais à eux aussi, veux-tu aller plus loin? Ça, c'est l'appel de Dieu ce matin. Veux-tu aller plus loin? Laissons-nous emporter. Cette occasion nous est encore donnée aujourd'hui. Veux-tu aller plus loin? Et l'une des manières d'y répondre, ça peut être justement au travers de l'adoration. Dire, Seigneur, oui, emporte-nous. Et peut-être si Joël a encore un peu d'énergie pour m'assister, on peut reprendre ce chant, le dernier chant qu'on a chanté. Je vivrai pour t'adorer, Seigneur, tous les jours dans ma vie. Et prenons cet engagement vraiment. Seigneur, je veux vivre pour t'adorer. Et ensuite ce refrain, que ta gloire remplisse ma vie, parce que c'est lié. Seigneur, je veux vivre pour t'adorer et que ta gloire remplisse ma vie. Et ce matin, vivons-le pas juste comme maintenant on chante un chant et ça fait bien et c'est bientôt la fin du culte. Concentrons nos cœurs vers le Seigneur ce matin et laissons-nous emporter par lui dans quelque chose de différent, de supérieur. Si vous voulez vraiment répondre à cet appel de Dieu et aller plus loin avec lui, ben, simplement faisons-le au travers de ce chant et laissons le Saint-Esprit nous amener plus avant avec le Seigneur.
Sécurité dans ta plénitude, c'est toi, Seigneur, le désir de mon cœur, quand je suis avec toi, je suis satisfait. Good.